sais pas où elle est, je la vois pas. Tu peux pas mettre ça derrière pour éclairer la caméra aussi, s'il te plaît? Je vois pas où est la caméra.
Ça me fout, moi.
Bon, allez, tiens.
La lumière,
allez.
Merde.
C'est terminé.
Ça tourne.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Jérémy et bienvenue dans le 52 minutes Actu Dubcast, pardon, le podcast qui vous parle en 52 minutes et pas une de plus de toute l'actualité culturelle, cinéma, série, jeux vidéo, musique. À la fin de ces 52 minutes, nous devrons inexorablement rendre l'antenne puisque malheureusement le faisceau de transmission sera coupé. Mais d'ici là, pour m'accompagner et vous présenter cette première fournée d'informations culturelles de mars, j'ai réuni autour de moi trois reporters de choix, trois super guerriers aux cheveux jaunes, amateurs de petites culottes qui aujourd'hui encore ont le cœur lourd et les yeux qui piquent, comme si on avait, en ce vendredi 8 mars, détruit un bout de leur jeunesse. Salut Yao.
Salut tout le monde.
Salut Julien.
Salut à tous.
Et salut Dim, qui n'est pas encore endormi et qui est là, et qui est content d'être là.
Pas loin, ouais, salut tout le monde, oui je suis content d'être là, mais comme tu as dit, un peu quand même de vague à l'âme au vu de l'actualité.
Un peu tristoun, effectivement. Écoutez, vous savez hein, comment ça se passe. On a effectivement 52 minutes et pas une de plus, effectivement, pour lancer les news. Donc, pas mal de news aujourd'hui. Donc, on va essayer de ne pas perdre de temps. Je vais mettre mon petit chronomètre en route et on va attaquer pour des news cinéma, il me semble. Peut-être un peu musique. Peut-être, effectivement, on va parler d'un mangaka un peu connu aussi parce que c'est normal de parler un peu de ça. C'est un peu le moment avec toute cette tristesse. Et bah écoutez, on attaque tout de suite.
Je vais répondre. Tout de suite, là ?
Ah ben
ça
oui.
A commencé ?
Ben oui, ça a commencé.
L'émission a commencé ?
Ben, on est à l'antenne depuis 5 minutes.
Alors, qui est-ce qui veut commencer avec une news peut-être cinéma ? Dim, tiens, allez, vas-y, démarre. T'avais une news qui était peut-être un peu alléchante, d'ailleurs. Je t'écoute.
Ouais, alléchante, mais vraiment courte. C'est le nouveau film d'Ari Aster. Hein. Ari Aster, ici, on adore. Ouais. Hein. Toi, tu l'avais classé même numéro 1 dans mes souvenirs.
Ah, Boys Afraid, ouais.
Son dernier film. Donc, ouais, ça fait bien plaisir, parce qu'il prépare son dernier film. Enfin, son nouveau film, plutôt. Et bah c'était pas forcément gagné, hein, parce que même s'il était numéro 1 dans ton cœur, Jérémy, Boys Afraid, il était loin d'être le numéro 1 du box-office, hein, il a fait quand même un petit bide. Et là, pour le coup, en plus, il s'est entouré d'un sacré gros casting, hein, donc il y a toujours Joaquin Phoenix, avec qui il avait tourné Boys Afraid, mais il y a aussi Emma Stone, hein, qui a tout juste remporté son Oscar de la meilleure actrice pour le film qu'on a chroniqué ici pour Things. Austin Butler qui est actuellement au cinéma dans la deuxième partie de Dune, ou encore l'acteur qu'on voit maintenant absolument dans tous les films et toutes les séries, à savoir Pedro Pascal. Ouais. Et le film s'appelle Eddington, et il le décrit lui-même comme un western horrifique. Vu la description qu'il avait fait à l'époque de Boys Afraid, est-ce que ça sera vraiment un western horrifique ? Parce que bon, des fois, je trouve qu'il s'enflamme pas mal sur ce qu'il peut dire et sur le résultat final, qu'il soit bon ou mauvais, hein, mais c'est souvent bien différent de ce que ça peut être. Donc, on verra bien. Donc, pour l'instant, j'avais essayé de trouver des news sur la sortie du film. Alors, j'ai peut-être mal travaillé ou pas, j'en sais rien, mais j'ai pas vu de news sur la sortie. Mais j'imagine que ça sera dans un an ou deux, et puis bon, bah, chez nous, voilà, un nouveau Ari Aster, hein, c'est quand même toujours un événement, et j'imagine bien qu'on préparera une séance là-dessus, ou tout du moins on en parlera. Hein.
Sachant qu'en plus, western, là, c'est un style, je suis vraiment très très curieux, ouais Julien.
Ouais, je suis assez curieux du film, parce que c'est vrai que Boys Afraid, t'avais l'impression que c'était presque un film un peu cathartique pour lui, qui faisait un peu sa psychanalyse en direct, on en avait parlé ici, et c'était un film qui était à la fois très drôle, et en même temps assez très bizarre, et en même temps pas très accueillant, et tu vois, j'ai trouvé que c'était un film très très différent de ce qu'il avait fait avant, de Hereditary ou de Midsommar, et du coup, là, est-ce que l'échec du film au box-office, ça va avoir un impact sur ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va revenir vers quelque chose, tu vois, peut-être de plus lié à ce qu'on a appelé les vêtis d'horreur, mais voilà, à du film d'horreur, à quelque chose de plus dans le genre, alors que là, il était parti dans quelque chose de complètement différent. Je suis assez curieux, en fait, de voir ce qu'il va faire après Boys Afraid, qui était un peu une sorte d'étape, mais je suis vraiment très, très curieux de voir ce que ça va être. Et comme tu dis, il le présente comme ça, mais je me rappelle qu'à l'époque de Boys of Fred, je sais plus comment il le présentait, mais c'était aussi peut-être...
Comme son seigneur des anneaux à lui.
Ouais, voilà, ouais, ça. Tu vois, donc toujours, il a ce côté où il présente ses œuvres de telle manière que parfois t'es complètement surpris de ce que ça peut être, quoi. Et voilà, je suis assez curieux de voir ce que...
Hein. Tant qu'il y a une grosse bite géante dans le film, ça se passera bien.
Évidemment, si vous n'avez pas vu Boys of Fred, vous ne pouvez pas comprendre cette petite blagounette et on vous invite quand même à voir ce film qui est quand même long, mais qui est quand même une expérience avant même un film, une expérience. Et moi, j'espère qu'on aura encore une nouvelle expérience dans son prochain film.
J'ajouterai même toute sa filmographie.
Oui, complètement. Complètement. Midsommar aussi à voir absolument. Enfin,
disons que c'est le plus barré quand même. Le dernier.
Oh oui, de loin.
Et ses courts-métrages aussi hein, sont quand même pas mal à regarder aussi. Il y a pas mal de choses. Hein. Donc vraiment, personne, en tout cas, réalisateur hyper intéressant. Est-ce qu'il y avait d'autres... Parce qu'après, il y aura une grosse partie Julien cinéma. Est-ce que... Yao, je ne sais plus.
Si,
oh, oui, tu avais quelque
grâce
chose.
Grâce à notre
oui,
ami de Bondi, ouais. qui nous a partagé aujourd'hui un trailer. Donc je vais parler de The Crow, ou... Le Corbeau ou Kalasu, pour faire accord avec la séance où on parle de séries d'anthologie. Donc c'est le dernier film de Rupert Sanders, le réalisateur de Ghost in the Shell, le fameux remake qui ne sert à rien, on peut dire direct, enfin selon moi, hein, qui ne sert à rien du tout. Il est pas mauvais, hein, mais bon, c'est pour moi, c'est voilà. Je sais pas si c'est un reboot ou une suite de la licence avec Bill Skarsgård et étonnamment Sami Boagila.
C'est clairement un reboot parce que le personnage s'appelle Eric Draven comme Brandon Lee et voilà, ça reprend l'histoire à zéro, il me semble.
D'accord, ok. J'ai pas du tout suivi le process du film. Donc ouais, j'attendais rien du tout de ce film car pour moi c'est pas du tout un remake au vu du trailer quand même si il a le même nom, mais ça suit pas du tout la trame. Visuellement, au moins du film et les personnages. Donc je trouve que c'est pas un remake du cultissime film de Proyas, donc la fameuse adaptation du comic de James Sobar. Je vais éviter la comparaison, mais par contre, d'habitude, je regarde jamais les trailers, mais là, j'ai voulu par curiosité, je n'aurais pas dû, car comme je disais à Jérémy, j'ai l'impression d'avoir vu tout le film en 2 minutes. Et puis, vraiment, les trailers, je trouve que c'est vraiment de la merde au niveau du montage et de la musique, c'est toujours à peu près la même chose, donc j'ai pas vraiment trop d'avis là-dessus, je pense que j'irais me faire mon propre avis, mais ça a l'air d'être un film un peu lambda et un peu dans l'air du temps, mais je sais pas si vous l'avez vu, le trailer, vous.
Ah, non, mais j'ai vu le trailer et je suis d'accord avec toi, ils en montrent beaucoup trop. Ouais, ça fait un peu j'arrête l'étau en Joker quand même. Hein. Excusez-moi, hein, je veux pas faire mon vieux con, mais là, déjà on est d'accord. Enfin, The Crow, c'est pas tant le film que l'aura du film et ce qui s'est passé et la musique et l'ambiance et un film culte d'une époque. Après, est-ce que c'est un bon film? Est-ce qu'il a bien vieilli, etc.
Bah non,
c'est une autre question.
Mais... Façon, voilà, déjà
mais voilà, donc déjà, voilà, moi, je sais pas si c'était une bonne idée de revenir sur un truc qui à la base est une BD et fait partie d'une époque.
Mais
et
après,
tout. Là, refaire un truc à enlever le côté gothique, mettre un côté un peu plus cyberpunk. Mélangé avec je sais pas quoi, enfin ouais, je sais pas. Après oui, ça passera, sinon il y a la cuvette toujours.
Moi je trouve, enfin excuse-moi Yao, je trouve au moins que ça a le mérite de se démarquer de toutes les suites, les daubes et autres itinérations qu'on a pu avoir de The Crow, quoi, où juste le premier film est assez mythique.
Et la suite, c'est vrai que c'est catastrophique.
Et tout ce qui s'est passé ensuite, c'était vraiment naze.
Vincent Pérez.
Au moins là, ça se démarque. Et le film, il revient de loin, parce que ça fait longtemps qu'il est en pré-production, ou ouais. C'est passé de main en main. Je sais qu'à un moment donné, ça devait être Jason Momoa dans le rôle principal. il était pas mal attaché au projet, il s'est barré, et maintenant c'est... comment il s'appelle, c'est un des...
Bill Skarsgård, c'est Skarsgård. Ouais, non, je disais, après, pour un peu défendre le film, je dirais, de toute façon, il y a l'œuvre culte de James Sobar, et après, il y a plusieurs déclinaisons de Crow, où le héros, il ressemble pas du tout à Draven, donc pourquoi pas, après cette proposition, mais voilà, moi, je dis, je suis pas objectif, vu que pour moi, c'est un film culte, enfin, il me tient vraiment, cher à cœur, ce film, et j'ai l'idolâtre, donc ouais, donc...
Déjà, moi, ce que je comprends pas trop dans le principe de la licence, alors, j'ai aucune connaissance du comics, j'ai jamais lu... Mais c'est toujours un mec qui se fait buter et qui va se venger, qui revient entre les morts,
oui,
pour se venger.
Revenge movie.
Je veux dire qu'il s'appelle Eric Draven ou Jean-Michel, je sais pas quoi, ça change rien, quoi. C'est toujours un peu la même histoire. Et je vois pas pourquoi ils s'acharnent à toujours refaire des reboots, des remakes, des suites de la licence. Enfin, c'est bon, quoi. On a compris, quoi.
Après, on n'a pas eu tant que ça, hein, mine de rien. Tu dis pourquoi ils s'acharnent. Il y a eu les trois films ou quatre, il y a eu la série. Et après, il y a eu un gros creux, je te dis.
Bon. Ah, c'est déjà pas mal quand même.
Bah pour l'époque ça va. Hein. T'as d'autres licences genre des Fast où ça va plus loin. Et
non mais
pour
c'est
rien
pour
dire.
Faire la même chose. C'est pour toujours faire la même chose. Je trouve. Enfin, je vois pas trop l'intérêt. Mais bon.
Comme les Fast. Enfin bref voilà. Donc le film il sort le 7 juin de cette année aux États-Unis. Et je pense que pareil c'est dans la foulée ici. Hein, donc. Par curiosité j'irai voir.
De... C'est un blockbuster, c'est pas un triple A, ça sent quand même le.
Un double A ?
Ça sent le Punisher. Ça fait un peu Punisher quand même, un peu. Hein, un peu le Marvel Sony quand même, hein, ouais. Je trouve. Hein. Enfin, ça me fait. Franchement, j'ai pas été convaincu de ce que j'ai vu.
Bah après,
l'esthétisme et tout. Je pense que moi, j'irai pas foutre 10 balles là-dedans. Hein, je vous le
dis. Moi, j'irai voir par curiosité, vu que j'adore.
Oui, mais j'entends si t'as aimé. Moi, voilà, je suis pas suffisamment attaché à cette licence que je trouve.
C'était comme pour Robocop, tu vois. Robocop, j'ai joué un culte et j'ai comme voulu voir le remake pour voir de quoi il en était, tu vois. Donc,
j'ai pas trouvé
ça. Si pareil,
plus,
moi j'avais trouvé mec, des trucs intéressants, donc ça se trouve, il y aura peut-être des trucs.
C'était intéressant. Même
après,
si
moi j'ai plus peur
de...
par rapport au réel, que je trouve ça plus un faiseur, des belles images et tout ça, mais en général, des
après,
films.
Après, il fait toujours des films un peu pas terribles, mais visuellement.
Qu'est-ce que je dis, c'est un faiseur, quoi.
Ça a de la gueule quand même. Donc,
On va voir.
À voir, Julien, je te sens assez dubitatif là-dessus.
Bah, j'ai pas trop de souvenirs, moi, de The Crow. Je pense que je l'ai vu à l'époque, mais c'est pas un film qui m'a marqué ou que j'ai particulièrement apprécié. Donc là, j'ai même pas vu le trailer. Alors moi, j'ai juste entendu des gens se plaindre qui disaient il y a plus de métal dans, dans The Crow. Parce qu'apparemment, la musique, moi, j'ai cru entendre que c'était une sorte de morceau de Ozzy Osbourne, mais version auto-tunée. Moi, j'ai vu le nom de FKA Twigs qui serait dessus. Voilà, donc j'ai l'impression que c'est un truc un peu plus émo gothique, un peu, tu vois, un peu vocodé. Donc peut-être qu'ils ont. Après, ils sont ça, peut-être obligés d'aller vers quelque chose de différent et pas refaire la même chose et reprendre.
Une fois, comme je disais, il y a plusieurs histoires, il y a plusieurs comics, donc c'est pas que l'histoire originale. Et ouais, il y a deux infos en plus, il y a le Blu-ray qui arrive du fameux film en fait, qui était jamais sorti, donc là je suis content.
The Crow, de
94 cette année, donc je suis content. Et pour revenir à l'acteur principal, vu sa prestation dans John Wick 4, ça m'inspire pas trop confiance en fait. Donc à voir. Donc j'ai trouvé très très mauvais dans le dernier John Wick. Donc je sais pas ce qu'il vaut comme acteur.
Eh ben, réponse, dans quelques mois, on verra, on en reparlera, peut-être en conseil, peut-être ailleurs, peut-être que ça sera une bonne surprise, on ne sait pas, on ne l'a pas vu, en tout cas, le trailer, je suis assez d'accord avec toi, Yao, il était quand même pas génial, et c'est pour ça que je suis comme toi, je ne regarde plus aucun trailer, parce que c'est quand même divulgacher la moitié d'un film, c'est quand même, moi j'étais pareil que toi, ça m'a choqué de voir toutes les scènes, et on te raconte toute l'histoire, comme si on n'était pas suffisamment, si on était trop con pour comprendre ce qui allait se passer, bref, c'est quand même extrêmement dommage. Julien, c'est à toi. Tu voulais revenir peut-être sur un événement qui s'est passé il y a quelques jours.
Oui, comme tu vois, tu veux qu'on parle de ça, d'accord, ok. Donc,
Non,
mais j'avais une autre petite news avant parce que je.
Ah bah vas-y, fais ta news. Vas-y, fais. Dans le sens que
ouais, c'est à peu près.
C'est quand même. Prends ton temps, mets tes pantoufles. Vas-y, on t'écoute.
Non, mais c'est lié aussi à la news dont on va parler juste après. Mais je voulais parler peut-être de ce qu'est la femme de l'année 2023-2024. Hein, je vais prendre l'année. Je vous pourrais l'appeler presque Justine Triet, hein, qui est voilà, Anatomie d'une chute. On en a pas mal parlé ici. Hein, on avait nos deux éclaireurs. On pensait pas que ça serait eux, mais Yao et Dim hein, nous avaient conseillé d'aller voir le film. Je crois que c'était cet été. Hein, le film était sorti.
C'est ça. Ouais. Ça, au mois d'août,
Au mois d'août, donc on l'avait pas traité dans le podcast. Donc voilà, on sait qu'elle a eu une moisson de récompense pour Anatomie d'une chute. Hein. On rappelle une Palme d'Or, on en a pas parlé, mais 6 Césars, hein, puisque ça a été la grande gagnante des Césars. Et donc un Oscar, alors on aurait peut-être pu attendre mieux. Qu'est-ce qu'il y a
C'est dit, je vois bailler comme un petit toutou là. Oh, je suis fatigué, dépêchez-vous.
Allez, bah, allez, attends,
c'est pas beau de vieillir, les gars.
Vas-y, désolé.
Et du coup, bah, on en a appris un tout petit peu plus hein, sur le futur de Justine Triet au cinéma. C'est un de ses deux producteurs hein, qui s'appelle David Thion, qu'on a pu notamment voir d'ailleurs au César, qui a révélé quelques informations. Donc son prochain film sera principalement tourné en langue française, mais je cite, pourrait avoir une actrice anglo-saxonne dans le rôle principal. Donc toujours un peu comme elle avait fait avec Sandra Hüller, où tu avais une actrice allemande qui était dans un film français. Voilà, peut-être qu'elle réutiliserait cette idée-là. Alors on sait encore rien sur le sujet du film, juste qu'elle planche dessus. Et peut-être un truc plus intéressant, et ça va faire le lien avec l'autre news dont je parlerai tout à l'heure, c'est qu'en marge des Oscars, hein, on a également appris que Steven Spielberg,
avait adoré le film et qu'il aurait discuté avec le duo, donc Trier et Harari, hein, donc son compagnon qui a coécrit le scénario et qui avait réalisé le très bon Onoda. Hein, si vous l'avez jamais vu, je vous conseille vraiment de le voir. Voilà, là pour le coup c'est aussi un excellent film et lui aussi travaille sur son film, donc ils auraient discuté avec Steven Spielberg d'un futur scénario. Alors il n'y a pas de projet concret encore, mais Spielberg a dit à Arthur Harari, je cite, hein, c'est Harari qui le rapporte, il aimerait un jour, je cite, que vous m'écriviez un scénario de ce niveau de complexité, voilà, en citant Anatomie d'une chute. Donc voilà, en ce moment c'est un peu le triomphe de Justine Triet, c'est un peu la belle histoire, hein, presque, on a l'impression que tout ce qu'elle vit en ce moment, elle touche de l'or, donc peut-être une collaboration future pour un scénario, puisque là ils ont eu le prix du meilleur scénario original aux Oscars, qu'ils avaient déjà eu d'ailleurs au Golden Globe, c'est un prix qu'ils ont raflé à peu près partout. Donc voilà, évidemment à Hollywood on est quand même toujours friand de trouver des bons scénarios et de trouver pour des metteurs en scène comme ça, que ce soit Polanski, que ce soit Spielberg, hein, ils sont toujours à la recherche soit de bouquins qui sortent et de scénarios adaptés de livres ou soit de scénarios originaux, donc ça pourrait peut-être dans le futur augurer quand même une carrière peut-être hollywoodienne pour le duo Arthur Harari et Justine Triet.
Ouf, j'ai eu peur, je crois que t'allais dire, je croyais que Spielberg allait demander est-ce qu'il aurait pu faire un remake. Je me suis dit, oh merde.
Bah, honnêtement, tu te dis, est-ce que ça va pas arriver ça? Alors, je sais pas si après eux ils peuvent les en empêcher, mais tu sais, c'est toujours un truc quand même.
Ouais, je sais, mais bon, ça se fait un petit peu de moins en moins, mais en général, les remakes.
Ouais. Ah ouais, c'est clair que c'est rarement réussi, quoi. Mais à mon avis, ça doit leur trotter dans la tête de faire un remake, je parle à Hollywood.
Très bien, bah écoutez, moi, il faut quand même que je vois Anatomie d'une chute, parce que j'ai toujours pas le temps de le voir.
Tu as vu Fury avant Anatomie d'une chute, ça c'est beau.
Putain, vous vous rendez compte quand même, c'est quand même dramatique quand j'y pense. Mais bon, écoutez, c'est
quand même... Il est sur Canal, hein, tu peux le voir.
Ouais, je sais, il faut pas que je le loupe, parce que je serais quand même dégoûté. Mais il faut juste trouver le temps et puis le moment pour le voir, effectivement. Julien, tu veux poursuivre sur tes news?
Ouais, je voulais qu'on revienne un petit peu sur les Oscars, hein, qui ont eu lieu la semaine dernière.
Évidemment.
Le week-end. Alors, je ne sais pas si ce qui vous intéresse dans les Oscars, c'est les prix, c'est les robes, c'est... non, parce que je sais que moi, le lendemain, toujours, je débriefe avec ma femme, les robes, on dit « Oh, t'as vu machin, les robes qu'elle avait. »
C'est des photos, là.
« Ah, Sydney Sweeney, oh, t'as vu Emily Ratajkowski, oh, mais c'est quoi cette robe de Emma Stone ?» Tu vois, on est un peu là, les robes, voilà, c'est toujours sympa.
Est-ce qu'on peut appeler ça des robes encore, pour certaines?
Ah, j'appelle ça des robes. Il y a des robes qui sont carrément maintenant...
transparentes, on peut dire.
Soit transparentes, ou soit carrément, j'ai vu celle de Emily Ratajkowski, qui ne sont plus collées au corps. Elles sont presque détachées, en fait, du corps de la personne. C'est assez original. Et alors, je voulais revenir. C'était une cérémonie qui n'a pas eu trop de surprises, qui n'a pas eu trop de grands moments. C'était un peu mou du genou. Alors, il y a eu la performance de Ryan Gosling.
Tu l'as regardé? Triomphe.
Alors, moi, j'ai vu après un replay assez rapide.
Ça vaut quoi, alors?
Alors, tu dis quoi, la cérémonie ou la performance?
Non, la performance de Ryan Gosling.
Alors, très très drôle pour le coup. Ce qui était un peu quand même, alors c'était un peu bizarre qu'ils obtiennent des prix pratiquement pour des chansons de Ken. Alors, c'est quand même un film Barbie. Mais lui, il était quand même très très drôle. Et je pense que dans la veine comique, alors je sais que toi tu l'aimes pas trop dans
sa veine. Ah, si, justement, en fait, je suis d'accord avec toi.
Non, mais dans sa
veine
un peu, tu vois, la veine un peu plus cérébrale, tu t'accroches moins. Mais il est quand même très fort dans la veine comique. Et je trouve que là, le truc qu'il fait, c'est Yasla qui vient carrément sur scène jouer avec lui, il y a des trucs qui sont assez ouf. Mais voilà, on va dire quand même, alors le grand gagnant, il faut le dire, mais ça me fait un peu mal de le dire, mais le grand gagnant des Oscars, c'est Christopher Nolan. Alors j'ai pas vu Oppenheimer encore, il arrive sur Canal, on le verra bientôt. Peut-être pour un futur épisode de la cuvette, je ne sais pas, pour en faire des amis. Non, mais je sais que vous l'avez vu, mais voilà, c'est le grand gagnant, puisque Oppenheimer a été élu meilleur film, meilleure réalisation Christopher Nolan, meilleur acteur Cillian Murphy, meilleur acteur dans un second rôle Robert Downey Jr. Il a eu quoi d'autre aussi, voilà, les prix principaux, notamment les deux acteurs et tout ça, à part, ils ont évidemment, parce qu'il y a principalement que des acteurs masculins, donc ils ne pouvaient pas gagner non plus le prix de la meilleure actrice. Voilà, c'est le grand triomphe de Oppenheimer, c'était quand même attendu. Et c'est ce que je dis, hein, il n'y a pas eu trop de surprises. Peut-être la plus grosse surprise, c'est que les films de plateforme, on peut penser à Maestro, on peut penser aussi à Killer of the Flower Moon,
ouais, qui était à la base,
nous on l'a vu au cinéma, mais il est
normalement
sorti.
Il n'était pas favori,
Alors, il était favori dans le sens où non, mais il avait beaucoup de nominations.
D'accord.
Je crois qu'il avait 12 nominations, il a eu 0 Oscar.
Parce qu'il n'a rien eu, putain.
Non, rien du tout.
Ah, surtout pour l'acte.
Je suis pas trop étonné. Et Maestro, c'était quand même, moi je vous l'avais dit, hein, c'était quand même une sacrée.
Ouais, mais t'es pas, là, pour, t'étais étonné pour Maestro, oui, mais peut-être pour Killer of the Flower Moon, c'est peut-être plus étonnant.
Ouais, après, bon, Scorsese aussi, c'est super, mais c'est vrai que je pense que c'est peut-être pas le cinéma qu'on attend maintenant, et je pense qu'on part sur les choses.
Mais je crois qu'il a jamais rien gagné, c'est... Scorsese.
Si, il avait pas un truc d'honneur Non, jamais rien.
Il me semble, qu'il a jamais eu d'Oscar. Peut-être une connerie, mais.
Et pour Les Affranchis, il a
eu des prix. Il a eu la palme à Cannes quand même.
Oui, oui, il a déjà eu des prix quand même, mais aux Oscars.
Pour Les Affranchis, il a pas reçu un Oscar.
Ah, c'est fou ça, ouais, t'as peut-être raison en plus. Ouais.
Et non, du coup, alors il y a eu quelques prix aussi qui peuvent être intéressants. C'est meilleur film étranger, donc La Zone d'intérêt, donc dont on a parlé dans la séance. Plutôt, voilà, moi je trouve plutôt un bon choix. Moi j'étais très content que le meilleur film d'animation ça soit Le Garçon et le Héron. Alors j'ai pas vu tous les films qui étaient en compétition, mais ça m'a fait plaisir que ça soit ni Spider-Man, ni Élémentaire. Voilà, quand même, il y a quand même des niveaux d'écart. Hein, ça
je te rejoins à moitié, mais bon. Enfin, je te rejoins à moitié dans le sens, ça fait du bien que ce soit pas un Pixar comme chaque année en général, tu vois. Mais là, pour le coup, ouais, après, je suis content pour Miyazaki, quand même, mine de rien. Ça me fait plaisir quand même que ce soit lui qui l'a reçu, mais j'aurais bien voulu voir un Spider-Man.
Ah ouais, alors, pour moi c'est
le premier l'avait gagné, il me semble. Hein,
ouais, il avait gagné aussi.
Ouais, pour moi c'est à des années.
Mais après ouais, enfin, ça fait c'est très content pour Miyazaki.
J'ai noté quand même premier Oscar pour Wes Anderson, alors pas pour Astro City, mais pour il a gagné meilleur court-métrage de fiction, The Wonderful Story of Henry Sugar, qui est sur Netflix et que je vous conseille de regarder. C'est plutôt un moyen-métrage qui dure 40 minutes, qui est peut-être le meilleur de tous. De tous les courts-métrages qu'il y a.
Sympa, j'ai vu aussi. Ouais.
Il est très très bien. Franchement, c'est une très bonne surprise. Totalement dans le style Wes Anderson, peut-être un peu moins maniaque que ce qu'il a fait avec Astro City, que moi j'aime plutôt. Mais c'était vraiment intéressant.
Ah si, moi il y a un prix que je kiffe, et Dim va me rejoindre, c'est Godzilla Minus One qui a gagné les FX. Ouais, ça, c'est une conséquence.
Meilleur effet visuel. Alors, est-ce que tu as vu l'anecdote? Moi j'ai entendu ça, qu'apparemment il voulait pas inscrire le film à la base. Je sais pas si le réalisateur ou le producteur, et que finalement ils lui ont dit ouais, c'est seulement $200. Et il a dit bon, ok, on le fait.
C'est fou ça.
Ok, ils l'ont, et hop, il gagne un Oscar. Meilleur
c'est plaisir, en tout cas, c'est mérité ça pour le coup.
Il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est alors, tu sais, meilleure musique, c'était pour pour Oppenheimer, Ludwig Göransson.
Sérieux?
Ouais. Et je crois que c'est lui qui a fait une sortie sur les jeux vidéo en disant
oui, c'est ça.
Heureusement que mes parents m'ont pas acheté des jeux vidéo, ils m'ont plutôt acheté genre je
plus. Ah piano, oui, c'est ou ça, c'est le mec qui avait fait putain.
Comme si on pouvait pas faire les deux, mais bon,
surtout sur pas moi les visites d'Oppenheimer, enfin bref. Bon après chacun ses goûts.
Voilà, donc il y a pas forcément meilleure chanson originale, c'est pour Billie Eilish pour Barbie, la chanson finale. What I Was Made For. Ouais, y a pas, après les autres, je pense qu'on a à peu près tout dit vu que Oppenheimer a à peu près tout gagné.
Et, voilà, et les costumes, c'est pauvre créature ou pas? Les costumes,
ouais,
c'est pas, c'est
il
pauvre.
Me semble.
Meilleur costume, c'est pauvre créature. Ouais. Ah oui, j'ai pas dit.
Et ça a été présenté par John Cena. Ah ouais, à poil.
C'est marrant. Et évidemment, j'ai pas parlé de meilleure actrice, c'est pour Emma Stone.
De toute façon, on le savait depuis le début. De toute façon.
Ouais, alors il y avait un petit débat, il y avait une sorte de gens qui poussaient un peu pour que ça soit Lily Gladstone, donc Killer of the Flower Moon, qui est très bien. Alors moi, je trouve que c'est presque un second rôle, enfin dans le film. Alors après, c'est toujours, je sais jamais comment ils choisissent premier rôle ou second rôle. Est-ce que c'est du temps d'apparition à l'écran, est-ce que c'est dans l'importance du personnage? Moi je l'ai trouvé très bien dans le film, mais moi pour moi honnêtement Emma Stone elle était intouchable sur l'Oscar. Alors évidemment il y avait une poussée un peu pour dire Lily Gladstone, pour récompenser les populations indiennes, pour faire une sorte d'Oscar un peu de visibilité. Bon voilà, après il faut aussi arrêter de faire des Oscars de visibilité, elle est super dedans, mais moi je trouve quand même Emma Stone c'était vraiment un truc, en plus c'était un film, enfin c'était un rôle fait pour l'Oscar quoi. Donc voilà, moi ça m'a pas surpris.
C'est une réussite de bout en bout. Hein.
Après on peut penser ce qu'on veut du film, mais ce qu'elle fait dans le Lentimos.
Ce qu'elle fait, elle, c'est. Voilà, c'est vraiment.
Elle est super bien dedans. Voilà. Deuxième Oscar donc pour elle, puisqu'elle l'avait eu pour La Land, un peu plus décrit en termes d'Oscar. Ouais.
C'était quoi ce premier rôle ou second
rôle? Ouais, l'Oscar du les premiers rôles dans La Land.
Ah ouais? Putain.
Ouais. Bon, je trouve que c'est pas forcément justifié pour le coup. Faudra voir qui y avait et tout ça. Mais... Bon, on se rappelle qu'ils avaient pas eu l'Oscar du meilleur film, c'était là où il y a.
Ah, c'est vrai que. C'est quoi du meilleur film?
C'était Coda, non, qu'il avait eu?
Moonlight.
Mais c'était surtout la scène où ils avaient annoncé, ils croyaient que c'était eux, et finalement ils étaient venus, c'était pas ça, quoi. Voilà, donc une cérémonie sans surprise.
On va enchaîner, j'ai une petite news série, rapidos, je sais pas si vous aviez des news séries, moi ça va vraiment pareil, hein. C'est comme tout à l'heure Dim et Harry Aster, hein. C'est juste revenir sur le... parce que c'est une news très très fraîche là, de... après Five, le réalisateur Igor Gottesman, il tourne une nouvelle série en fait, hein, avec Pierre Niney.
Surtout après Family Business. Ok.
Allô ? Allô ? Je n'entends pas. donc, cette série s'appelle Fiasco. Et en fait, au début, j'ai lu cette news en me disant « Mouh ». Et puis après, quand on regarde un peu le scénario, ça a l'air d'être une comédie assez particulière quand même. Donc, ça arrive le 30 avril prochain sur Netflix.
Hein. La séance.
Donc, on va voir ce que ça va donner. Alors, ce n'est pas une série historique. Hein. On pourrait le croire parce que c'est vrai que quand on a vu la photo, je ne sais pas si vous avez vu cette photo de tournage où on voit effectivement une scène de Viking, en fait, où ils sont dans la neige et tout. On pourrait se dire, tiens, qu'est-ce que c'est de ça ? Est-ce qu'ils vont faire un truc historique ? Non, en fait, l'histoire, en gros... donc c'est 7 épisodes de, en gros de 35 minutes où Pierre Niney en fait il joue un réalisateur hein, qui débute dans le tournage de son premier long métrage et du coup en fait le film traverse plein d'époques différentes dont l'époque de Viking hein, dont on parlait tout à l'heure. Et en gros, alors c'est le début, hein, la trame, hein, j'ai vu ça visiblement, il veut rendre hommage à la vie en fait, de sa grand-mère, hein, qui était résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, il va avoir des problèmes en fait, pendant le tournage, hein, qui vont même se transformer en une sorte de cauchemar, parce que tout le monde, visiblement, ne veut pas qu'il réussisse son film. Il y en a qui essayent de le saboter. Voilà, donc... assez étonné, je sais pas trop ce que ça va donner le scénario, voilà, est-ce que il y a un petit côté le créateur, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire est-ce qu'on va être dans des films, dans le film plongé un petit peu dans des films, je sais pas trop ce que ça va donner, je sais pas trop ce que ça va être. Après ce que j'aime bien, c'est une série avec des épisodes de 35 minutes, c'est plutôt cool ça aussi, ça fait du bien un peu plutôt que toujours des séries d'une heure, 7 épisodes de 35 minutes, je suis curieux. Niney, il a un potentiel de faire bien imp aussi, donc je suis curieux de le voir dans ce rôle. Est-ce qu'il va être plutôt le gars sérieux et les gens un peu bizarres vont être autour de lui, ou est-ce que lui-même va être un peu étrange? Voilà, plein de questions que je me pose autour de ça, et je pense que ça va se butiner, hein, les 7 épisodes, et je sais pas vous ce que vous en avez pensé, est-ce que vous êtes en attente, est-ce que
moi c'est ma série d'année, hein.
Ouais, toi Yahoo, je te vois trépigner sur ton siège.
Tu m'as dit Five, pour moi Five c'est une des meilleures comédies jamais réalisées voilà, en France, puis Igor puis Pierre Niney, ben, c'est vendu, hein. Parce qu'ils ont fait aussi casting ensemble.
Et François Civil aussi.
Donc
hein.
Voilà, le trio est réuni. Donc voilà, pour moi, ça va être magistral. A priori, ça ne devra pas trop se planter vu ce qu'ils ont fait derrière. Bon, Family Business, moi je suis moins fan, mais je vois, il adore.
J'allais te dire, non mais.
Si, c'est parce que t'adores, il y a ton acteur préféré dedans, là, Raphaël Quenard qui a chié dedans, mais tu l'as dit, c'est un. Voilà,
c'est, la seule bonne, c'est la seule bonne chose dans.
Non, c'est une faute de parcours, Family Business, mais Five et casting, hein, c'était excellent. Donc non, j'attends comme un fou. Surtout Pierre Niney en comique, il a un potentiel de dingue ce mec, donc.
Et dans Family Business, il n'y aurait pas Lina El Arabi qui jouerait dans une série qui s'appellerait Fury et qui serait une série quand même à suivre, à surveiller, hein, je dis ça.
Écoute, je sais pas, je crois que Dim en parle dans un autre podcast et
il est
ravi.
Il a dit... Ah. Exactement.
Dim, est-ce que t'attends autant la série de Niney, là, Fiasco, autant que Fury, parce qu'il partage la première lettre?
Ah, je pense que je l'attends un peu plus. Après, j'ai pas vu Five.
Non, mais fonce le voir.
J'ai pas vu Family Business.
N'y va pas.
Donc, ouais, pourquoi pas. Je me laisserais peut-être tenter, j'en sais rien. Après, c'est vrai que Pierre Niney, le peu de fois que je l'ai vu dans quelques films, je le trouve plutôt cool. Donc, puis oui, j'ai déjà vu qu'il avait quand même un bon potentiel comique, donc pourquoi pas.
Et excuse-moi, il y a un truc, il fait que ces séries, ça commence par un F, non? Il y a un truc, Fiasco, Five, Family Business, il y a un truc, il y a une...
Quand on ira l'interviewer, on lui demandera.
En plus, il a joué avec son acteur fétiche, là, Raphaël Quenard, sur Netflix, là, je ne sais plus comment il s'appelait le film. Ils jouaient tous les deux, tu l'as pas en tête?
Ils jouaient, tu l'avais vu le film là
Non, je ne l'avais pas vu moi.
Non, je parle Jérémy.
Ah ouais.
Lequel?
Le film avec Raphaël Quenard.
Son
acolyte, c'est Igor, c'est lui le réalisateur.
Ouais.
Ah oui, exact. Cash,
ouais, c'est lui le réalisateur. Ouais, c'est ça.
Ouais, plutôt un bon film en plus, plutôt une réussite. D'accord, ok. Ouais. Plutôt pas mal. Enfin, c'est pas transcendantal, mais je m'attendais à une grosse bouse. Et en fait, c'était plutôt bien fait. Bon, après, voilà, c'est peut-être lui aussi qui sauve. Effectivement, il peut sauver des films et des projets qui sont au départ un peu casse-gueule. C'était plutôt pas mal parce que je m'attendais à une grosse comédie et c'était pas ça.
Tu nous diras ton avis sur Sentinel alors avec Jonathan Cohen et Raphaël Quenard.
Ça, c'était quand même marrant, je trouve. Ça, je l'ai vu, ça m'a bien fait marrer. C'est complètement débile, mais il y a une ou deux scènes où j'étais quand même crevé de rire, quoi.
Ah, j'ai pas vu. Il faudra que tu regardes ce truc. Mais Cohen, je pense que là, j'ai fait une espèce d'overdose. Je peux plus, quoi. C'est dommage parce que j'aimais bien, moi, en plus. Hein. J'étais le premier à aimer, mais là, c'est compliqué. J'ai l'impression qu'il fait toujours le même.
Je te conseille dans Dali. Ça change.
Ouais,
même si Dali est.
Ouais, peut-être. Par contre, dedans, il est Dali. Ouais. Oui, c'est possible. D'autres news, ouais.
Non, j'avais un truc, alors qui a presque rien à voir, mais comme je me disais, tu sais, les trucs en F là. Le truc, le mec, il fait toujours. Alors, c'est un petit quiz. Vous savez quel groupe de death metal, tous leurs albums, ils commencent par une lettre, et ils ont fait l'alphabet. Ils ont fait A, B, C, D, E, F, G, et ils sont arrêtés pour l'instant à K.
Ça, c'est Dim, ça, qui c'est
ouais, bonne question, je sais pas.
Un groupe de death metal, gros, ouais, un des plus gros groupes de death metal.
Pas Cannibal Corpse.
C'est Tool.
C'est sûr.
Un groupe californien.
Tool, c'est pas du death metal.
C'est pas du death metal. Korn, je sais pas moi.
Non, bah, c'est pas du death non plus.
Du death metal. Ah, du death.
Pantera.
Ouais, américain. Ça sent plus. Californie, les années 90.
Pantera. C'est pas du death metal, Pantera.
Non, c'est pas du death metal.
Oh là là, les gars, vous êtes trop loose.
Je vous donne le nom du chanteur, c'est David Vincent.
David Vincent.
Ah, c'est Morbid Angel,
yes,
non, c'est, non.
Tout à fait, ouais.
Ah.
Et donc, tous leurs albums, le premier, c'est Altar of Madness, Blester the Sick, Covenant, Domination, Untangled in Chaos, le live, Formula Fatal to the Flesh, Gateway to Annihilation, Heretic, Illud Divinum Insanus, Juvenilia, un live, et là, ils en sont au cas, Kingdom Disdained. Voilà. Ça, c'est marrant.
Et comment ils feront quand ils auront terminé tout?
Ils arrêtent.
Ils recommencent.
Ils ont encore eu autant là. Hein. Moi, je sais même pas si c'est. Moi, je pensais pas qu'ils faisaient encore des albums, mais là, c'est le dernier date de 2017, quoi. Je sais même pas quelle formation ils ont maintenant. Mais... Bon, grand groupe, hein, si vous pouvez écouter les premiers, Altar of Madness, Covenant, Les Stars of Sick.
Et d'ailleurs, en parlant de death metal, on fait un petit aparté musical, mais vous avez vu, il y a Loudblast qui vient d'enregistrer encore un nouvel album avec un putain de bon batteur en plus, un batteur qui a une chaîne sur YouTube.
Ah, c'est plus le même batteur?
Non, parce qu'en fait, c'est le batteur, il veut plus faire de studio, ça le stresse trop, en fait. Donc, il fera les tournées, mais il a dit, ah, c'est plus pour moi de faire du studio. Et ils ont un putain de batteur qui est Channel Drum, je sais plus quoi. Enfin bref, c'est une chaîne sur YouTube qui est plutôt pas mal. Et c'est lui qui fait la batterie, ça va déboîter. Enfin bref, c'était une petite parenthèse death metal.
J'avais une question pour, en fait, Yao. Parce que, est-ce que Yao, il se rappelle quel acteur de série française avait des t-shirts de Loudblast?
De Loudblast?
Ouais. Une série française dans les années 90.
Une série française dans les années 90, ouais. C'est sur la 2.
Putain, si tu sors un truc d'AB Productions, là, je deviens fou.
Pas loin.
Ah, c'est pas sur la 2 plutôt, Seconde B. C'est pas Seconde
yes.
B.
Yes, Seconde B, ouais.
Ah, c'est pas Igor. Non, c'est pas Igor l'acteur.
Non, pas lui. C'était juste. Ce qui était super bizarre, c'était le mec qui jouait le rappeur en fait. Un peu, tu vois, le mec des quartiers. Et il avait dans la série. En fait, c'était un fan de Loudblast, je crois. Donc dans la série. Il en mettait, quoi, tu vois, alors que ils avaient se dire, ça, peut-être les producteurs, ils connaissaient pas, ils sont dit, oh. Il avait des t-shirts de Loudblast. Vous regarderez si vous retrouvez les images.
Il pensait que c'était un groupe comme NTM et puis.
Ah oui, c'est ça. Il voulait en faire un petit un mec des quartiers, quoi. Et le mec, il arrive avec un t-shirt de death metal. C'était excellent.
Putain, comment il s'appelait ce acteur?
Seconde B, je sais plus comment il s'appelle. Il était très.
Je sais qu'il y avait Igor, là.
Ouais, c'est lui, c'était le rocker.
Ouais, c'est ça. Ah la vache, cette série, putain.
La série Benetton, mais...
Ah, c'était Kader. C'était...
Kader.
Pascal Jobert, il s'appelle l'acteur.
Excellent.
48 ans.
Il est peut-être toujours fan de la...
Igor Butler, c'est le nom.
C'est le truc de Yao, ça, l'âge des acteurs.
Ouais. Igor Butler, attends, c'est pas un pur nom, ça?
Igor Butler.
Yao, il veille au grain sur l'âge.
Igor Sinon, Butler. On va peut-être avancer, non? Je crois qu'on a un hommage à faire.
Ouais, bah, pareil, ouais.
Oh, putain, le rabat-joie.
D'ailleurs, avant ce hommage, est-ce qu'il y avait d'autres séries? Est-ce qu'il y avait d'autres séries? Non. Est-ce que tu avais d'autres news, Julien, ou peut-être Yao? Je crois que non. Ils étaient tous là, ils étaient dans les starting blocks pour notre hommage. Mais,
j'ai juste...
mais avant, moi, j'avais une petite news avant aussi. Hein,
moi aussi.
Mais t'en as peut-être
jeux vidéo. Aussi. Pour le coup, j'avais une petite news.
Ah,
très rapide.
Ah, c'est vrai. Allez, vas-y, jeux vidéo, puis moi, je finirai en musique.
D'accord. Bonne nouvelle. Pour les amateurs de la petite balle jaune et les autres bourgeois des cours un peu comme Yao, hein, c'est le retour.
J'ai jamais joué au tennis, monsieur, j'ai pas les moyens.
C'est le retour en 2024 de la licence Top Spin. Hein. Donc, ça avait été annoncé en début d'année par 2K, hein, l'un des meilleurs jeux de tennis ever. Top Spin 4 aura bien une suite avec Top Spin 2K 2025. Et ça sort très bientôt puisque ça arrive le 26 avril 2024. Pas mal de sites et de youtubeurs ont pu essayer le titre. Hein, et si graphiquement, on n'est pas au niveau notamment des animations, on est assez loin d'un NBA 2K par exemple. Côté gameplay, apparemment, ça semble vraiment très très bon dans la lignée du précédent. 13 ans qu'on attend un nouveau Top Spin, hein, c'est le studio Hangar 13 qui s'y colle pour 2K Game, hein, qui va distribuer le jeu, avec notamment dans l'équipe de Hangar 13, pas mal d'anciens de l'équipe qui avaient développé Top Spin 4. Donc c'est quand même tous les retours qu'on a sur le gameplay, hein, sur les sensations manette en main de vraiment d'un des meilleurs jeux de tennis, bah, ça promet quand même du très très bon. Donc moi, ouais, je suis hyper content, parce que c'est, je pense que c'est mon jeu de tennis préféré avec Virtua Tennis et Final Match Tennis sur NEC. Et voilà, moi j'ai toujours été fan de...
élitiste, quoi. Il t'aurait pu dire des jeux sur Super NES.
Ah, Jimmy Connors, il est super bien aussi. J'adore Jimmy Connors.
Prolo, quoi. Ouais. Le bruit.
Rejouer à Final Match Tennis, c'est toujours un des plus grands jeux de tennis. Meilleur que Super Tennis sur Super Nintendo. De Human, qui est très bien aussi.
Super Tennis, il était un peu léger, mais c'était un de mes premiers jeux sur SNES aussi. Mais c'est vrai que c'est sympa quand même. De toute façon, c'est la base du jeu vidéo.
Ouais, hein. La version Wii qui est le meilleur jeu de tennis au monde. Wii Sport.
Ouais, non, c'est un bon jeu de tennis.
C'est sympa. Oui, non, mais c'est vrai.
C'est pas un très bon jeu de tennis, mais c'était un jeu très marrant. Quoi.
Très jeu de technique.
Après, ce qui est bien aussi, c'est d'acheter une table de ping-pong. C'est cool aussi. J'en ai une dans le jardin. C'est bien aussi à jouer, finalement.
Il y a eu des bons jeux de ping-pong. Le jeu de Rockstar, il y a eu un très bon jeu de ping-pong de Rockstar.
Ouais. Mais en plus, c'est vrai que c'est fun. Dans un jeu vidéo, c'est vrai que le tennis, c'est quand même fun. Parce que. Alors, moi, ce que j'aime bien dans Jimmy Connors, c'est qu'en plus, ce qui était assez simple, c'est que tu pouvais choisir de ne pas jouer ton personnage et de taper juste dans la balle. Et c'était déjà suffisamment technique parce qu'il fallait la taper au bon moment. Parce que quand il fallait se déplacer et en plus taper, c'est pas si facile que ça, hein, mine de rien. Parce que entre les lifts, où se placer, etc. Mais je suis vraiment. Virtua Tennis, j'avais vachement aimé. Là, je suis curieux aussi de ce jeu et on verra. Je pense que. Et je suis persuadé qu'il va avoir un sacré succès.
Ça vaut pas
parce
un
ça fait
Mario
longtemps
tennis,
qu'on n'a pas eu un bon jeu de tennis. Ouais, et là, les gens, ils sont en canne, là. Ils attendent que ça. Quoi.
Ça vaut pas un Mario Tennis.
Ah, il y a Mario Tennis qui est bien aussi. Là. Dans un genre arcade. Voilà.
Ouais, mais dans un genre arcade, effectivement. Ouais. Merci Julien. Une autre news JV où on a fait le tour. On était assez chiche en JV, mais bon, hein, y aura dans du conseil, je pense qu'il y en aura pas mal aussi. Hein, quand on fera le prochain upcast conseil, vous verrez, il y aura du JV. Moi, je vais terminer avant de passer sur la partie, on va dire, sur la partie BD, manga, etc. Une news. Plutôt une réflexion, hein. Je vais essayer d'aller assez vite, mais en fait, alors je sais pas si comment on prononce, peut-être la SNEP, la SNEP, je sais pas comment on dit, c'est le syndicat national de l'édition phonographique qui a annoncé en fait que la croissance numérique est en retard en France comparée au top 10 en fait des marchés mondiaux. Alors vous allez me dire, ouais, super, mais ça veut dire quoi? Vous allez voir, je vais vous donner des chiffres quand même, mais c'est quand même assez intéressant parce que ça pose question sur plein de choses. Donc, en fait, il y a une progression de 10% des revenus du streaming par abonnement à 468 millions d'euros en 2023. Et ça reste, effectivement, selon la SNEP ou la SNEP, ça reste trop faible pour nourrir pleinement le développement de ce marché, d'autant plus que le streaming constitue sa première source de création de valeur. En gros, ça veut dire quoi? En France, en fait, on est vraiment à la traîne par rapport au streaming de musique, en fait. Puisque la France est avec 12 millions de comptes payants, affiche un taux de pénétration de 16,5%. L'Allemagne est par exemple à 17,5%, le Royaume-Uni à 26,5% et les États-Unis à 30%. Donc vous voyez, nous avec nos 16,5%, on est quand même loin derrière. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on n'écoute pas suffisamment de streaming? Est-ce qu'on achète plus de vinyle ou est-ce qu'on fraude? En tout cas, voilà, il y a vrai problème en France par rapport à ça. Alors, une des explications, et c'est un peu la news dans la news, en tout cas, hein, une des explications viendrait effectivement de l'annonce de la nouvelle augmentation de Spotify, hein, qui est le deuxième, qui est vraiment, enfin, un des plus gros streamers musicaux. Alors, pourquoi Spotify effectivement va augmenter? Donc ils ont annoncé sur X que sa communauté d'abonnés français subiront une augmentation de prix en raison des coûts supplémentaires sur les services de streaming musicaux. en fait. Et à cause de quoi, est-ce que vous savez? C'est à cause d'une taxe qui s'appelle la taxe streaming qui va arriver en France. Qu'est-ce que c'est vous avez compris qu'elle se renvoie un petit peu la balle. Il y a Spotify qui dit « Ouais, mais nous, on n'augmente pas, on ne voulait pas augmenter. » Mais en fait, c'est le gouvernement français qui nous impose d'augmentation. C'est quoi cette taxe? C'est une nouvelle taxe sur le chiffre d'affaires que chaque service de streaming de musique doit désormais s'acquitter pour financer le Centre National de la Musique. C'est un organisme public ayant pour but de soutenir la filière musicale française. Et vous avez vu à quoi ça ressemble. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble effectivement au CNC pour le cinéma. Donc il y a la même chose pour la musique, qui impose des taxes et qui taxe du coup, on va dire, les plateformes et les streamings de musique. Alors voilà, est-ce que c'est une excuse? Est-ce que Spotify, qui est pas dans la, c'est pas la première fois qu'ils augmentent, ils augmentent assez souvent. Là, ils vont encore augmenter, on ne sait pas de combien. Est-ce que du coup, ça vous inquiète sur ce système? Est-ce que vous allez continuer Spotify? Et voilà, enfin moi je ne sais pas, ça me pose toujours question et je me demande est-ce que pourtant j'ai le sentiment qu'en France on est quand même assez mélomane et que effectivement le streaming musical ne prend pas tant que ça et je me pose la question du pourquoi, est-ce que, parce qu'il n'y a pas que Spotify quelque part, il y a plein de supports, moi je suis passé sur Qobuz qui est juste un truc de dingue en fait, c'est génial et je ne sais pas pourquoi ça ne prend pas. Ouais, Julien,
non mais là moi j'ai pas grand chose à dire rapidement, c'est que juste ils prennent en otage en fait les ceux qui payent les abonnements Spotify en se cachant derrière ça et parce que voilà il y a un bras de fer entre Spotify, l'État français, voilà c'est une histoire de gros sous et c'est finalement côté utilisateur que ça va retomber donc après je sais pas s'ils sont très gagnants avec ça parce qu'il y a quand même des offres à côté, t'en parlais et ça a commencé à faire cher pour en plus une qualité qui est pas dingue puisqu'ils ont toujours pas le lossless, ils sont toujours en retard sur des choses, donc voilà, non, j'ai pas grand chose à dire. Après, on est plus dans des choses presque de juridiques, stratégiques, et voilà.
Ouais. En tout cas, c'est vrai qu'il y a un petit recul en France, et vraiment, ça décolle pas, ce qui est assez étonnant. Je sais pas, vous avez, Yao, toi, tu utilises t'en as pas, t'écoutes pas de musique
Non, moi, je suis resté bloqué dans les années 2000, donc non, j'écoute pas du tout. On en discute, peut-être pour la famille, mais moi, je sais pas trop mon truc, en fait.
Et toi, Dim, tu as
un... Ouais, moi, je partage un compte Spotify avec des amis, un compte famille, donc ça ne revient pas trop trop cher pour l'instant. Mais c'est vrai que je l'utilise, mais pas plus que ça. Je suis plus à écouter des podcasts, en règle générale. Et c'est vrai que des fois, je me demande même pourquoi je le paye, en fait.
Ouais, c'est marrant, ça. Ouais.
Enfin, si, j'écoute, mais j'écoute quoi? Je dois écouter... 5-6 heures par mois, ce qui est une broutille pour vous, j'imagine.
Oui, c'est par jour, mais bon. Non, après je plaisante, après je pense, je comprends le truc. Et c'est vrai que moi, on en parlait, mais moi c'est vrai que je suis passé sur le high-res, c'est-à-dire le haut de gamme, parce qu'effectivement je voulais trouver une plus-value par rapport au CD et au vinyle que j'ai. Et c'est vrai qu'un Spotify, par exemple, ne rentre pas dans ce que je recherche, parce que la qualité n'est pas suffisante par rapport aux écoutes que j'ai envie de faire. Donc c'est vrai que c'est dommage qu'il se limite aussi pour ça. Et Deezer aussi, quelque part, je trouve qu'il ne monte pas à des niveaux de qualité de musique qu'il pourrait faire, et il ne propose pas, par rapport au prix, des choses qui pour moi pourraient me satisfaire. Et c'est vrai que je pense que, comme tu disais, Julien, il y a beaucoup des trucs qui étaient de niche. Par exemple, Qobuz, qui est français, alors vraiment, je ne suis pas là pour faire de leur pub, mais qui à un moment, on se demandait même s'ils n'allaient pas s'arrêter, en fait, à trouver vraiment un public parce qu'ils proposent une qualité. Alors, franchement, d'être passé sur. Moi, je suis passé sur Deezer, je suis passé sur Spotify. Là, c'est. Voilà, tu étais dans la Twingo, dans la Trabant, et là tu arrives dans la BM, quoi. Franchement, c'est un truc de malade. C'est un plaisir. Tu redécouvres quelque part la musique aussi. Donc, voilà. À un moment, je me dis, on va se retrouver à vouloir, même si tu. En tout cas, si tu veux payer plus, c'est pour avoir quelque chose qui va t'apporter autre chose et du coup, une qualité ou alors une expérience. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression de revivre une expérience musicale en payant quelque chose, mais en ayant effectivement une qualité et en ayant l'intérêt en fait aussi du streaming, c'est-à-dire avoir des choses qui peuvent pousser effectivement une qualité musicale autre que ce qu'on peut avoir on va dire au quotidien quoi. Et c'est voilà, c'était la petite partie musicale et la petite partie chiffres, et voilà, on va voir ce que ça donne. Mais maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer effectivement à un autre sujet et de revenir effectivement sur un auteur qui nous a quittés. We'll be right back. il y a quelques jours. Hein, alors, je ne sais pas si tu avais préparé un truc à dire dessus, Julien.
Yao,
tu avais préparé. Et bah, écoute, donc on parle bien évidemment d'Akira Toriyama, hein, qui est décédé à 68 ans. Je te laisse effectivement en parler un peu, puis après, je pense qu'on reviendra, on reviendra un peu sur cette news qui nous a tous un peu chamboulés, étonnés, stupéfaits, et un petit peu mis dans une situation un peu étrange, où on a l'impression d'avoir perdu un proche, ou en tout cas quelqu'un qui a toujours été là et qui nous a forgé un peu. Mais je te laisse parler, Yao, vas-y.
Alors, comme tu l'as assez bien dit, le monde entier a appris le décès de Akira Toriyama, donc de Papa Dragon Ball, mais pas que, pour les personnes du fond qui ne seraient pas au courant. Le 8 mars, mais en fait, la vraie date, c'est le 1er mars. Donc, voilà, il y a un temps. Il est mort d'un hématome sous-dural. Donc, je vais faire un petit fact-checking de ça. Donc, selon le rapport officiel de prestigieux mangaka japonais, est décédé à 68 ans, comme tu l'as dit, des suites donc, d'un hématome sous-dural aigu, qui est une accumulation de sang entre les couches du cerveau et l'enveloppe externe. Donc, la cause précise de cette condition reste inconnue. Cependant, il semble qu'il souffrait de problèmes de santé depuis 2022, qui se sont aggravés l'année dernière en raison d'une tumeur cérébrale. Selon l'humoriste Tomohide Okawa, qui entretenait une amitié proche avec Toriyama, il a commencé à avoir des problèmes de santé il y a 2 ans. En 2024, il a été annoncé par email que le mangaka serait hospitalisé pour une tumeur cérébrale. Et de même, le scénariste Takao Koyama a indiqué que l'écrivain et l'illustrateur étaient malades depuis 2024. Donc à présent, Takashi Matsuyama, qui a travaillé étroitement avec le mangaka pendant des années comme son assistant, a été interviewé par le journal japonais Shunichi Shimbun. Dans l'article publié le 9 mars, l'assistant a révélé qu'il entretenait une amitié étroite avec Toriyama au fil des ans. Leur relation était si proche qu'il lui avait même demandé d'être le parrain de son mariage, qui a eu lieu l'automne dernier. À cette occasion, le créateur de Dragon Ball a informé Takashi Matsuyama qu'il subirait une chirurgie pour traiter une tumeur cérébrale pendant le nouvel an. Et apparemment, il a partagé cette nouvelle avec une relative indifférence, se plaignant seulement qu'il avait du mal à arrêter de fumer. Et à ce moment-là, Toriyama-san a dit qu'il subirait une chirurgie pour une tumeur cérébrale au nouvel an, il semblait indifférent à ce sujet. Lors de l'interview, Takashi Matsuyama a rappelé qu'il avait promis au créateur qu'il lui rendrait visite après sa sortie de l'établissement médical suite à son opération. Par conséquent, la nouvelle de son décès fut un choc. Donc comme tu disais, le temps s'est arrêté ce jour-là pour une grosse partie de notre génération et plus, car cet immense artiste a été et est toujours une référence pour beaucoup. C'est selon moi le roi et dieu du manga, le roi du shonen, source d'inspiration de par ses dessins, son univers, ses persos, et j'en passe. Et j'aimerais savoir ce que vous avez ressenti lors de cette annonce et comment vous l'avez appris, et surtout toi Julien, car on parle très peu manga avec toi, et je suis curieux de savoir si ça te touche ou pas, car j'ai l'impression que t'étais déjà adulte à l'époque du Club Do, tu travaillais et tout ça. Et que t'étais déjà passé à autre chose, donc je suis surtout toi, les deux hostiques, je sais un peu, mais toi, qu'est-ce que ça représente Toriyama dans ta vie, de jeune enfant et dans ta vie d'adulte?
Déjà, moi, je suis jamais touché par les décès des personnalités, c'est pas un truc qui... Voilà, donc... Mais en fait, ce qui m'a surpris, c'est finalement le retentissement mondial que ça a eu, en fait. Déjà, ça, c'est la première chose. Et après, en fait, moi, j'étais hyper lié, en fait, à Dragon Ball, mais presque par... je sais pas comment dire, mais c'était pas que j'étais un fan, mais en fait, quand t'avais 14-15 ans dans les années 90, et bah en fait, tout le monde était fan de Dragon Ball. En fait, moi j'ai découvert avec les mangas les éditions Glénat, et après, en fait, le Club Dorothée, moi j'étais pas très fan, je trouvais que c'était vraiment des trucs qui se foutaient de la gueule des mangas. Et en fait, nous, je dis nous parce que quand j'habitais à Savigny, d'ailleurs, Terry de Level Max sait de quoi je parle, puisqu'on allait dans le même magasin, et moi j'achetais des tonnes de posters, j'achetais des tonnes de cartes, j'achetais tous les OAV quand ça sortait, tu vois, en japonais, je pense qu'à l'époque, ils devaient doubler avec les cassettes, tu vois, ils faisaient faire des copies pour les vendre, c'est des vieilles arnaques quand t'allais chez Concy ou quand t'allais dans des boutiques comme ça, j'achetais des cartes et tout, j'avais plein de trucs Dragon Ball, en fait, et Dragon Ball Z, et en fait, j'étais pourtant pas un gros fan, mais c'était tellement présent dans notre quotidien, et on était tellement fans, et tu vois, en fait, le truc de pas l'avoir tout de suite, parce qu'il y avait toujours un décalage entre les sorties françaises et ce que t'avais déjà au Japon, c'est que, voilà, on achetait, tu sais, on achetait les, comment... on achetait les magazines, on achetait les Jump et tout, tu vois, on achetait plein de trucs, on achetait même en japonais, on regardait les trucs en japonais alors qu'on comprenait rien, c'était tout le temps présent, on avait les cartes et tout, c'était les posters, les trucs, moi j'avais, en fait ma chambre elle était remplie de trucs de Dragon Ball, alors que globalement en fait j'étais pas tant fan que ça, et quand après c'est passé à GT, moi j'ai jamais vu Dragon Ball GT, je me suis arrêté vraiment à Dragon Ball
Dragon Ball Z. Donc en fait, c'était tellement présent, et c'est pour ça que ça m'a fait quand même quelque chose, parce que voilà, à l'époque, c'était quand même une partie de ta vie. Alors moi, je suis pas très nostalgique, donc je suis pas très attaché à ça, mais voilà, ça a fait quand même un truc. Ouais, et puis c'était un des seuls qui était connu sur son nom, on en avait parlé un petit peu, mais je trouve que c'est un des seuls mangaka qui parle presque à tout le monde, en fait.
Ok, ouais, c'est vrai. Et toi, Jérémy,
Moi, c'est... Alors, très Dragon Ball, première édition. Moi, c'était vraiment Dragon Ball que quand j'étais gamin. Là, je me rappelle avoir découvert le jour de la sortie, quand il y avait Dorothée qui a dit « Ah, mon petit chouchou, je vais vous présenter un personnage et tout. » Et je me souviens... Et j'ai vraiment des souvenirs, voilà, l'armée du ruban rouge. Moi, j'aimais bien cette histoire, en fait, l'histoire de ce petit personnage avec sa queue de singe, là, qui se trimballe avec le côté même un petit peu érotico-coquin par moment avec Bulma. Voilà, avec le pof-pof, les machins, c'était assez drôle, il y avait un petit côté, et c'était surtout ça, je me souviens, moi, toute cette partie-là. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai été beaucoup moins fan de Dragon Ball Z dans cette époque-là, où je trouvais ça, en fait, c'était trop long, et comme il y avait un épisode c'était chiant, en fait, ça me saoulait, c'était trop... Et je trouvais, à chaque fois, j'aimais bien quand il y avait les histoires, moi, toutes les histoires, le permis de... quand il passe le permis, quand il y avait des espèces de petits trucs rigolos, parce qu'au moins, t'avais une histoire entière, c'était drôle, ça passait bien et ça me reprenait l'état d'esprit de Dragon Ball. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai redécouvert le Z, Dragon Ball Z. Alors, j'ai même pas été jusqu'au bout, je me suis arrêté à Cell, mais là, j'avais vachement accroché. Mais plus tard, quand j'avais 18-19 ans, parce que là, je pouvais les voir comme je voulais, ouais. Et du coup, en enchaîner, en zapper, en accélérant. Et du coup, j'ai découvert un truc qui était vachement sympa et ça m'a vachement plu. Des personnages comme merde, celui qui est ouvert, le Satan Petit Cœur,
ouais, Piccolo, ouais.
Piccolo, merde, oui, c'est ça, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, que je trouvais la relation qui était assez intéressante, tous les personnages, mais par exemple moi les personnages les plus emblématiques, enfin voilà, je m'en foutais un peu, mais c'était vraiment moi le Dragon Ball en tant que tel, quoi, l'original, quoi. Et toi, Dim?
Oh bah, moi j'en ai déjà parlé en long, en large, en travers dans Yatacast. Moi c'est mon mangaka de référence, Dragon Ball c'est mon manga préféré, donc forcément moi quand j'ai appris la nouvelle, j'étais quand même sous choc, hein. Je suis un peu comme Julien, généralement, les morts de personnalité, bon, bah, ça me touche sur l'instant, si c'est quelqu'un que j'apprécie le travail, mais je passe vite à autre chose quand même. Mais là, ouais, ça m'a quand même fait drôle, et je pense que ça va me créer un vide pendant un bon moment, parce que c'est quelqu'un qui m'a accompagné quasiment toute ma vie, quoi. Après, il y a eu des moments où j'étais plus à fond dedans que d'autres, mais j'ai jamais vraiment lâché... Ce que vous disais en off, enfin pour moi, enfin son œuvre, surtout Dragon Ball, forcément la plus connue, c'est un peu le nouveau Tintin, quoi. Je pense que dans des décennies plus tard, on continuera à les lire et ça sera transmis de génération en génération. Enfin, j'imagine. Donc forcément, moi Toriyama, c'est, on va dire, une des deux personnes qui m'a fait le plus rêver en tant que créateur, lui et George Lucas, hein, comme vous pouvez le savoir aussi. Et bah oui, j'étais très très touché, et je suis fan aussi de ses autres œuvres, hein. Moi, Dr. Slump, j'adore l'humour maxi débile, caca prout-prout dans les mangas, et là on est en plein dedans. Tous ces petits one-shots, toutes ces histoires courtes, que ça soit Sandland ou les petites histoires courtes qui sont sorties chez Glénat, ça j'adore, quoi. Et franchement, je me les relis avec plaisir. Je trouve que j'adore son trait, on va dire, de ses dessins, parce que c'est toujours simple, mais c'est toujours cohérent, c'est toujours lisible, c'est toujours facile à lire, et tous les combats, on les comprend bien, toutes les scènes d'action, on les comprend aussi, ce qui n'est pas forcément le cas, je trouve, maintenant, dans les shonen actuels. Ah,
ouais. Son découpage, c'est une masterclass.
Moi, je sais qu'il y a plein de mangas, surtout tout ce qui est shonen neketsu, où je les lis, et je comprends pas tout, et je me dis, bon, je regarderai l'animé pour peut-être mieux que ça soit plus lisible, alors que lui, non, il a vraiment une science du découpage, et qu'on comprenne vraiment tout en un instant, qui fait que, pour moi, ça restera éternel, et que l'évolution de son dessin, on va dire aussi, du premier au dernier tome de Dragon Ball, où c'est plus du tout la même chose, mais qu'en fait, ça reste quand même cohérent, enfin, je trouve ça génial, et c'est un dessin qui a influencé tout le monde, on a tous essayé de dessiner un Vegeta dans notre vie, quoi, donc... Ouais, respect éternel et immense tristesse, quoi.
Ouais.
Et toi, Yao?
Moi, un peu comme Dim, hein, moi, c'est pareil, c'est le papa du manga, pour moi, c'est toute ma vie, et je ferais pas ce métier sans lui, en fait, et je dessinerais pas sans lui, en fait, en vrai, donc c'est vraiment ma grande influence. Puis comme tout le monde, c'est Dragon Ball, mais comme Dim, c'est Slump aussi en premier qui est... Moi, en termes d'humour, j'ai jamais trouvé mieux. J'adore Slump, pareil, ses histoires courtes. Surtout Kowa, pour moi, c'est son manga ultime en termes d'aboutissement. Et puis on parle aussi de... Enfin, de d'art et de manga, mais surtout, il a été très présent dans le jeu vidéo.
Avec les Dragon Quest. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, oui, effectivement.
Et puis, en termes de designer, pour moi, c'est un tueur aussi. Tout ce qui est les mechas, les véhicules. Ouais, non, comme vous, je suis pas trop... Ça me touche pas trop les pertes de célébrité ou de personnes connues, mais là, j'ai vraiment versé ma petite larme, quand même, parce que, mine de rien, ça parle aussi de transmission, ces œuvres, surtout Dragon Ball entre Goku et Gohan. Et ça me touche aussi parce que j'ai un des premiers bouquins que j'ai eu à mon fils, c'est Dragon Ball, quoi, quasiment l'intégral, donc c'est pour ça que ça me relie à ça aussi. Et donc, ouais, non, c'est vraiment une sorte de grand vide qu'il va laisser, mais comme vous l'avez dit, en fait, comme Dim l'a dit, son œuvre va perdurer, on le voit d'ailleurs, de toute façon, dans le monde entier. Où il est célébré partout, et même les grands médias ils en parlent, donc son œuvre va durer. Et non, c'est vraiment une très grande perte, et voilà quoi, je suis un peu sous le choc, quoi, comme tout le monde, quoi. C'est dur à réaliser.
Bah, ça a été soudain, disons que surtout à 68 ans, ouais. Comme ça, en plus, une personne qui est quand même assez réservée, on n'en entend pas beaucoup parler, il y a très peu de photos, on ne le voit pas beaucoup. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'il y a beaucoup de mangaka comme ça où on voit pas. Moi, je connais, par exemple, je connaissais pas sa tête en fait.
Ah ouais,
non, j'avais pas vu. Alors bien sûr, le nom je connais, etc. Mais sa tête, je voyais pas. Tu vois la tête du mec qui a fait One Piece, même son nom, tu vois, connais pas. Enfin, j'ai oublié, tu vois. Et c'est ça qui est assez marrant, c'est que tu il y a ce côté un peu loin et proche en même temps, c'est-à-dire que le nom est connu, l'œuvre est connue, mais le personnage est quelque part, il est pourtant très très loin et très très discret et secret, quoi. Donc c'est pour ça que ça a été d'autant plus un choc, je pense.
Les photos qu'on a eues dernièrement, c'était quand il y avait sur l'histoire des papers, là, les Panama Papers, on le voyait en survêt. Et voilà, mais sinon, ouais, il avait expliqué de toute façon qu'il y avait carrément des caméras qui étaient venues pour son mariage, et en fait, ça l'avait saoulé, et après, il s'est fermé de tout ça, et c'est pas ce qu'il cherchait, de toute façon. Mais ouais, c'est assez particulier, les auteurs, les mangaka là-bas, qui sont assez... qui veulent pas qu'on se mette de leur vie privée, quoi, et donc, ouais... De toute façon, avec Dim, on a dit qu'on fera un Oyatakast spécial Toriyama, et surtout Sandland, qui va sortir le 20 mars, donc on va faire les deux, donc on reviendra sur son œuvre aussi, nos inspirations, tout ça, donc... Ouais, c'était histoire de papoter là-dessus pour voir. C'est surtout, j'étais surpris par Julien, j'imaginais pas la chambre de Julien avec les posters de Dragon Ball.
Ouais, c'est vrai que ça m'a surpris aussi. C'est
surprenant d'imaginer Julien fan de la DBZ Mania, comme on disait à l'époque. Et ouais, on parlait aussi pareil, il y a les jeux vidéo qui nous ont marqué, la première apparition des gens en import, c'était une grosse claque à l'époque. Il y a eu Toba sur PS1 aussi, qui est une dinguerie. Il a touché à tout, quoi. En plus, ce qui est marrant, c'est que... Lui-même, il se qualifiait de flemmard, mais c'est hallucinant de voir tout ce qu'il a produit. Et...
Ouais, il faut rappeler qu'il avait commencé à un concours de manga pour pouvoir s'acheter des clopes et des maquettes.
Ouais, parce que c'était ça, c'est un gros tas, il adore les maquettes.
Je voulais revenir aussi sur les propos de Julien, sur l'ampleur des hommages, mais c'est vrai que c'était complètement hallucinant. Enfin, le jour où on a appris la nouvelle, le lendemain, le surlendemain, je voyais toujours plein de tweets passer, que ce soit des équipes de foot, président, le premier ministre, des acteurs, des chanteurs, tout le monde a payé son hommage à Toriyama, c'était dingue, quoi. J'ai rarement vu ça pour un artiste qui venait de décéder, quoi. C'est quand même assez incroyable, je trouve.
Hein. Surtout à mangaka, il faut se rappeler aussi comment c'était traité à l'époque, cette œuvre. Donc c'est d'autant plus bizarre et juicy de voir la presse dite tradie en parler. Enfin bref, c'est quelque chose, quoi.
Ouais, c'est marrant. Je pense que Sangoku, est-ce que c'est un personnage qui serait, à votre avis, peut-être aussi connu que Mickey, vous croyez?
Ouais, je pense que...
Alors... Astérix ou des choses comme ça, ou même peut-être plus.
Je pense. Surtout plus.
Oui, comme je disais, moi, ça va traverser le temps. Je prenais plus l'exemple un peu français, mais c'est le nouveau Tintin pour moi, quoi. Ça va traverser les générations.
Bah, je pense, comme je dirais, c'est plus du niveau d'un Mickey, enfin vraiment une icône, tu le reconnais direct. Mais ouais, donc voilà.
Mais c'est vrai que c'est étonnant d'avoir autant influencé, et même, tu vois, par exemple, dans le rap. c'est un truc qui est hyper cité, grave, quoi. Ouais. Tu vois, on pense, quand on parle ici, par exemple, de PNL, tu vois, il y a plein de références, ouais, à Dragon Ball. Dans le foot, étonnamment, t'as plein de tifos avec les boules de cristal, avec, avec les Super Saiyans. Tu vois, il y a plein de trucs. Mais c'est étonnant, en fait, que ça...
Ah bah, dans mon univers, je sais qu'il y a aussi certains groupes de métal qui en parlent. Dans le catch, il n'y a pas longtemps, il y avait des catcheurs qui étaient habillés en Saiyans, ou des catcheuses, là, récemment, qui ont fait la fusion bah, pour rendre hommage à... Toriyama sur le ring, c'était rigolo, quoi.
C'est vrai que toi,
ouais, je me souviens de le fusion. À chaque fois que j'entends fusion, mon neveu, quand il était petit, en fait, il voulait jamais, quand il était aux toilettes, il voulait jamais s'essuyer tout seul. Et à chaque fois, il avait un mot de passe avec ma mère, hein, vous vous rendez compte, hein, 70 piges, et il criait dans les toilettes. Parce qu'à un moment, son père n'arrêtait pas de dire « T'as, mais t'es grand maintenant, t'arrêtes, tu t'essuies tout seul. » Et dans les toilettes, il faisait toujours « Fusion !» Et là, il y a ma mère qui arrivait en courant pour aller le torcher. Et à chaque fois que j'entends « Fusion », c'était leur mot. Et en fait, il n'y en a pas un qui comprenait. À un moment, moi, j'ai compris que « Fusion », ça voulait dire qu'il fallait le torcher le cul. Et voilà, et c'est des trucs, ben voilà, ça va. Et fusion, moi, c'est cette image-là. Donc, vous voyez, même voilà, c'était dans, c'est le, on parle de fusion, mais on parle du Kamehameha, mais n'importe, bah ouais, qui, en fait, même si tu connais pas, tu sais pas ce que c'est, t'entends Kamehameha, tu sais, enfin, ça t'évoque quelque chose, quoi. C'est ça qui est drôle, quoi. C'est des notions, quand même. Et la voix, quelque part, aussi, de celle qui faisait la voix de Sangoku.
Brigitte Lecordier.
Alors, bien évidemment, japonaise, qui est une célébrité dans le monde, mais aussi chez nous,
Brigitte, hein,
qui
a fait beaucoup
de voix et tout, ouais, exactement, et qui l'a rendu célèbre aussi, ça, pour, ouais, ça, parce que la voix était aussi iconique. Je parle du dessin animé, moi j'étais plus, ouais, attaché au dessin animé,
Grand,
même
si
j'ai
Vegeta,
quand même, ouais, voilà, c'est ça, même si j'étais attaché aussi au manga, que j'aimerais bien refaire.
Mais
découvrir,
d'ailleurs, je te conseille, ouais.
Je me demandais effectivement si... je sais, 10 ans,
ouais, largement, ouais, parce que moi je t'ai dit, moi j'ai, ouais, fait découvrir à 6 ans, ouais, mon gamin, mais sauf que forcément,
d'accord,
vu que j'ai lu, j'ai tous les passages un peu, on va dire, un peu,
bah ouais,
de l'époque.
Le début, c'est quand même un peu.
Mais après, c'est Grévois, ouais, mignon de l'époque, c'est pas non plus, tu vois.
Oui, c'est vrai. Ouais,
c'est tout vrai, mignon, donc ça passe largement. C'est typiquement bien pour des gamins de 6 ans, quoi.
Ouais. Ouais, Julien.
Et alors du coup, là, on déborde un petit peu sur la durée,
oui, bah c'est,
la durée,
oui,
de l'épisode,
c'est
mais c'est
53 minutes,
c'est
quoi.
Le ouais. 60 minutes inside. Ouais. Mais pour le coup, c'est quand même étonnant, même en France, qu'on ait eu un journal national qui ait fait sa couverture dessus. Alors, couverture qui a plus ou moins divisé, puisque le titre a fait un peu polémique. Je parle de Libération, qui a fait un titre Dragon Ball Dead. Qui était plutôt, ouais, drôle, voilà, c'est toujours leur principe de faire des jeux de mots. Après, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont plus ou moins apprécié, mais c'est quand même étonnant d'avoir comme ça un journal qui fait sa couverture, qui fait 3 pages, alors que, voilà, moi je sais ce que ça a été à l'époque où je...
Bah, c'est ce qu'on dit, on a vécu, hein.
Bah oui,
on a vécu,
mais à l'époque où tous les journaux s'en foutaient, tout le monde te riait au nez, c'était mal vu, voilà. Mmh. Bon, après, ça, évidemment, maintenant, les gens qui sont dans ces médias-là, ils ont aussi grandi,
oui,
à cette époque-là.
Donc.
Mais c'était quand même étonnant de voir comme ça une couverture médiatique aussi importante, quoi. C'est vrai que moi...
Et un article... Ouais, ouais, et un article de. Alors, je l'ai pas lu, mais d'avoir entendu.
Moi, j'ai lu, franchement, c'est.
Voilà,
il est
qui
très
était
bon,
vraiment de.
De Marius Chapuis.
Très émouvant.
Ouais, de très bonne qualité,
très,
parce
très
que
qualité,
voilà, il,
ouais,
y a beaucoup de gens qui s'en lisent.
Oui,
sans, moi,
oui,
ça m'a un peu énervé, cette s'enflammer sur. J'ai lu des trucs, mais sur un magazine de droite qui chie sur. Enfin, n'importe quoi. Enfin, voilà, Libération, ils avaient toujours fait des. Il y a eu 100 chichis quand Chirac est mort, enfin, c'est leur marque de fabrique. Je peux entendre qu'on n'aime pas, mais après, c'est pas du manque de respect, c'est juste leur marque de fabrique. Après, voilà, mais c'est vrai que ça montre, c'est plutôt ça, il faut se rendre compte, ça montre quand même l'ampleur, en fait, du cataclysme, quelque part, de cette perte, même en France, quoi. Donc, c'est pas anodin, quoi. Ouais,
mais t'as raison, parce que moi, je faisais partie des gens au début qui trouvaient ça un peu bof comme titre, et en t'écoutant, et en me plongeant là-dessus, et en lisant l'article, et puis je me suis rendu compte, en fait, c'était un très bel hommage, puis même Toriyama de lui-même lui aurait fait des jeux de mots aussi pourris que ça, donc je me dis c'est vraiment un très bel hommage. Et ce titre, ça marche vraiment, donc comme t'as raison, faut creuser, faut pas s'arrêter à ça et s'offusquer pour ça, quoi. Donc c'est un peu...
Bon, après, c'est les réseaux sociaux, voilà. Ça va vite.
Oui, parce que t'as quand même certains journalistes, pour pas les citer,
sur des
surtout
conneries,
quoi,
pour
voilà,
pas les citer, qui vont
dire
on va pas oublier, tu vois, t'as des déclarations comme ça.
Bah,
tu vois,
ouais, le pire, c'est qu'ils ont gueulé, mais ils ont même pas lu l'article.
C'est ça,
quoi.
Mais c'est ça, ouais.
Surtout que ces journalistes,
on va pas oublier, ils ont déjà oublié.
C'est bizarre.
Mais pareil, j'en ai vu un, il disait qu'il voulait contacter l'ambassade du Japon et tout. Non, mais les gars, ils sont siphonnés, les gars, quoi. faut arrêter.
Ouais, c'est un peu dommage.
Ça, tu vois, ça, c'est, bon ça, c'est l'effet Fury, ça, tu vois. À force de regarder Fury, voilà ce qui se passe, quoi. Ouais, Julien, tu voulais dire.
Ouais, parce que, en fait, maintenant, je me rappelle aussi, quand même, c'est, je pense que pour beaucoup de gens, c'est peut-être les premiers mangas qu'ils ont lus en, tu vois, de leur vie, ouais. En fait. Ouais, c'est parce ça, que ouais. Moi, je me rappelle à l'époque où Glénat a sorti Dragon Ball, il n'y avait pas tant de mangas que ça. Moi, je me rappelle, il y avait Video Girl Live, ouais, Akira un petit peu avant.
Ouais, il y avait Gun aussi.
Ouais, il y avait peut-être Ghost in the Shell aussi, dans les éditions aussi Glénat, ouais. Les grosses
ouais,
éditions,
les tout premiers,
les grosses éditions cartonnées. Mais tu vois, c'était, moi je me rappelle, alors d'ailleurs, Video Girl Live, c'était un grand ami de.
Ouais, Katsura.
Katsura, c'était un grand ami de Toriyama.
Toriyama, ouais.
Pour le coup, et t'avais peu de mangas, enfin c'est pas comme maintenant. Maintenant, tu vas dans la Jeff Knack, t'as je sais pas combien de titres, faut voir quand même en combien, 25 ans, l'évolution ouais. Que ça a eu. Et aujourd'hui, je crois qu'on est le deuxième pays de vente de manga, mais je pense pour beaucoup, tu vois, ça a été le premier manga qu'ils ont lu. D'ailleurs, c'était dans la version, pas à l'envers,
la version française.
Et je pense aussi, c'est ça, j'ai l'impression que c'est presque aussi un espèce comme ça de marqueur générationnel extrêmement fort, en plus de la qualité. Et après, évidemment, Dragon Ball en dessin animé, alors que d'après ce que j'ai appris, il s'occupait pas du tout du dessin animé, lui, c'était vraiment sur.
S'en foutait royalement.
Ouais, c'est ça, et c'était d'autres qui le faisaient. En France, ça a beaucoup marqué le dessin animé, mais moi, pour moi, c'était surtout le manga à l'époque où tu vois, je les achetais chez Glénat et tout, je les avais tous, d'ailleurs, je les ai vendus, je regrette un peu de l'avoir fait. Parce que...
Bah, pour les perfects, ils sont bien.
Ouais, ouais, mais pour les enfants, ça a été bien, tu vois.
Ouais, et donc je te rejoins, enfin moi à la base comme vous tous j'ai connu via le dessin animé, mais un peu comme Jérémy, la version Z ça m'a un peu saoulé vers la fin, enfin on sentait qu'il en avait marre et qu'on lui a demandé du rajout, et pour le coup ouais, le manga il suffit à lui-même, je trouve, enfin moi j'aurais du mal à revoir l'anime maintenant, mais parce que le manga il est limpide, et comme t'en parlais, dit, en termes de découpage tu me vois 30-40 ans après, c'est une masterclass, quoi. C'est encore c'est lisible de A à Z, c'est bien découpé, c'est précis, enfin bref, c'est, on sent ses inspirations de ciné, quoi, tu vois. Donc non, c'est vraiment, en termes de shonen, c'est une masterclass, quoi.
Ouais, puis comme vous dites, hein, c'est pas prêt de s'arrêter, parce que je pense que les générations qui suivent sont toujours dedans. Moi, les gamins n'ont pas commencé, mais je pense que c'est dommage d'en arriver à attendre quand il y a des gens qui meurent pour démarrer des trucs. Ouais. Mais c'est vrai que moi, j'aimerais bien me refaire le Dr. Slump, là, parce que j'aimais bien le dessin animé aussi. J'ai vu quelques. J'aimerais bien redécouvrir effectivement en BD. L'univers
surtout que là, il y a la Perfect Edition. Ouais, elles sont
franchement, elles sont cool.
Eh ben on va
ouais,
se faire
c'est pareil,
plaisir,
mon fils il arrive à chaque fois. Non, moi je me tape des barres, je crois que c'est le manga que j'ai le plus su entre Slump et Dragon Ball. C'est vraiment un manga de chevet, quoi. Donc je serais trop vous conseiller aussi, il y a des bouquins qui sont sortis notamment chez Pixel Love sur Dragon Ball. C'est il y a quelques années, il y a aussi un bouquin qui est sorti il y a 10 ans, 13 ans je crois, chez 12 bis, ça s'appelle Akira Toriyama, le maître du manga. Que pareil, qui est bien détaillé aussi. Et dernièrement, il y a Gajin Das qui ont fait une émission hommage à.
Sumimasen.
Gajin Das, Sumimasen Turbo.
Sumimasen Turbo.
Qui ont fait une émission hommage à Toriyama, et notamment il y a des petites anecdotes croustillantes que seul Greg s'est raconté. Donc c'est,
ouais, il y a plein de trucs. C'est assez long, mais je trouve que c'est assez intéressant parce qu'il y a vraiment plein d'anecdotes. Des trucs vraiment cool à écouter si vous aimez bien.
Ouais, donc voilà. Petit hommage. Voilà.
Et puis il y aura Oyatakast aussi qui va revenir en détail sur l'œuvre, sur le maître. Voilà. Écoutez, j'ai le sentiment qu'on a un petit peu dépassé,
ouais,
mais
bien,
en même temps, hein, c'est exceptionnel. Hein, si on ne dépasse pas aujourd'hui, on ne dépassera jamais. Et on aura peut-être, on peut même avoir l'occasion de dire au revoir aux gens pour une fois. Hein, c'est quand même pas mal.
C'est vrai, d'habitude. Là, c'est quoi du coup? C'est un 66 minutes, c'est ça?
Ouais, c'est un 52 minutes avec un petit bonus.
En prolongation, quoi.
Pas de souci. Prolongation, c'est ça. c'est exactement ça. Eh ben, n'hésitez pas, encore une fois, à venir sur le Discord pour partager, pour dire aussi si vous avez ce que vous avez préféré, ce que. Voilà. Parlez aussi de vos news, hein, s'il y a des choses qui vous ont touché. Parlez musique, parlez Oscar, etc.
Qu'est-ce que ça évoque pour vous, Toriyama?
Et effectivement, et bien sûr, Toriyama.
Parce qu'on est tous des enfants,
même si
Toriyama,
ça en a déjà beaucoup parlé, hein, sur le Discord, hein, on est d'accord. Et puis, bah, écoutez, prochaines infos actus dans 15 jours, hein, toujours dans la joie et la bonne humeur. Et puis, bah, écoutez, on vous dit au revoir et à bientôt.
Ouais. Bah, moi, comme dirait, allez, Encha. みんな集まれ、天竜村。
しみ」「みんな集まれペンギン村に」「どんなことが起こるかな」「それゆけ一日お楽しみ」